Pamphile Mabiala, bonjour.
Bonjour.
Le 24 novembre 1990, le président Mobutu lance le multipartisme au Zaïre. Voulez-vous nous restituer le fait?
Je crois qu'à l'époque, c'était la fin de la guerre froide, n'est-ce pas? Dans les années 89, on parlait de la chute du mur de Berlin, c'est du mur de Berlin qui impliquait les grands changements en Europe. Alors, ces grands changements en Europe avec la chute du mur de Berlin, qui à l'antenne aussi la chute de l'Union soviétique comme grande puissance en petits États, eh bien, à partir de ce moment-là, l'équilibre du monde avait changé. Et d'abord, on a assassiné Ceausescu, le président de Roumanie, qui était un grand ami à Mobutu. Mobutu a vu cet assassinat qui était crapuleux et ça l'a rendu très triste. Et finalement, au début des années 89, il a fait une tournée à travers le pays pour être à l'écoute du peuple. Il a été dans toutes les provinces. Il a entendu des choses effroyables. Où des soldats, par exemple, nous disaient que, ben, écoutez, les chiens mangent mieux qu'eux, ou des choses aussi horribles. Mobutu est rentré très triste. Et alors, il a tiré toutes les leçons de l'histoire. Il a dit, mais si c'est comme ça que ma gouvernance est perçue par le peuple, eh bien, ça ne vaut pas la peine qu'on continue avec les partis uniques. C'est ainsi que le 24 avril 1990, à Séoul, il a dit, seul devant ma conscience, après avoir sillonné le pays, je me suis rendu compte de la misère et finalement de l'image négative de mon régime, eh bien, je prends congé du mouvement populaire de la révolution. Il s'est mis à pleurer. Elle a dit, alors, comprenez mon émotion. Et ses larmes de ce jour-là sont restées historiques, n'est-ce pas? Mais ce jour-là, il a dit des choses qui étaient fondamentales.
Qu'est-ce qu'il a dit, par exemple, de fondamental en ce jour-là?
Première chose, il a dit, écoutez, j'ai interdit le pluralisme politique, j'ai interdit le pluralisme syndical, j'ai interdit pratiquement même le mouvement de jeunesse, tout cela a été interdit, le port de la cravate, le port de la veste, tout ça est interdit à partir d'aujourd'hui. Tout cela est permis, on revient au pluralisme politique, mais il a dit, je préfère pour ces pays, au lieu que ce soit un pluralisme politique sauvage, je voudrais avoir un multipartisme à trois.
Mobutu avait donc prôné le multipartisme à trois. Avez-vous de l'impression que le multipartisme intégral est inopportun?
Peut-être qu'il n'a pas tout à fait tort, parce qu'aujourd'hui, vous voyez 445 ou même on tend vers 500 partis politiques dans un pays, c'est pas sérieux. Peut-être que si on avait suivi cette idée de un État à trois partis qui serait compétitif, on lirait mieux les rapports de force. Il y aurait des épargnes d'énergie, des épargnes d'argent et des épargnes de conflits. Mais on a voulu, à ce moment-là, quand on a dit multipartisme à trois, bon, ils ont dit non, il faut un multipartisme intégral. Alors le 3 mai 1990, comme on lui avait dit que c'était mauvais d'avoir décidé ainsi de quitter le MPR qui était l'instrument de son pouvoir, et en quittant le MPR, démissionner pratiquement comme chef de l'État, il pouvait pas le faire, il l'a récupéré, il a dit voilà, puis des meetings politiques, si vous voulez discuter politique, c'est toujours un verre de thé ou de café enfermé chez vous, mais pas sur la place publique. Et finalement, les gens ont lutté jusqu'en fin de l'année. On a parlé de multipartisme intégral quand même, 39 partis politiques. En janvier, c'était 123, et à la veille de la conférence nationale souveraine, c'était autour de 192 partis politiques.
26 ans après, quelle lecture faites-vous du processus démocratique en RDC?
Il faut dire que malgré tout ce qu'on a comme misère, le processus de démocratisation est réellement en cours, parce que regardez, nous avons eu en 2006 33 candidats à la présidence, dont 4 femmes. Eh bien, ce processus, c'est dans un état qu'on appelle des démocraties transitionnelles. Moi, je dis que c'est une démocratie en voie de post-conflit, parce que les postes de conflit sont toujours sur le territoire national. Mais évidemment, comme tout processus, bon, ceux qui sont au pouvoir font des efforts pour conserver le pouvoir. Ceux qui n'y sont pas aspirent d'entrer au pouvoir.
En tant qu'historien, quelles leçons enseignerez-vous à la démocratie congolaise?
Ben, les leçons que je peux enseigner à la démocratie congolaise, que la démocratie, c'est d'abord démocratique, que celui qui a le plus grand nombre de voix l'emporte. Et l'emporter, c'est l'emporter aussi, hein. Ça veut dire que celui qui a le plus grand nombre de voix dans ses jeux l'emporte. Comme un match de football, celui qui marque légalement, pas en trichant, le meilleur but l'emporte. Donc nous devons dire que la culture démocratique, elle s'apprend. C'est pas quelque chose de donné du jour au lendemain. Elle prend du temps à s'apprendre. Et nous devons accepter que nous sommes en apprentissage. Il y a des ratés. Mais moi, je pense que la démocratie congolaise est capable de résister au temps, parce qu'elle résiste déjà depuis les dernières élections jusqu'à ce jour. Il faut continuer à faire en sorte que les règles du jeu soient respectées. Et je crois qu'on nous respectera davantage de l'extérieur si nous sommes capables de faire ainsi. Parce que nos voisins, si vous allez en Zambie ou en Tanzanie, c'est surtout les pays anglo-saxons, les jeux, ça marche. Et au Bénin, ça marche. Pourquoi ça ne marcherait pas chez nous?
Pamphile Mabiala, merci.
Merci, monsieur le journaliste.